me pose la question, avant de commencer à transmettre un peu l'exposé que j'ai préparé, dans le fond, à dire mais de quoi est-ce que je parle finalement? De quel espace? J'ai pas une sorte de connexion à une tradition particulière où je pourrais simplement répéter fidèlement ce que j'aurais appris en Birmanie ou avec les lamas tibétains, parce que c'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai toujours aimé étudier plusieurs traditions parce que certaines me semblaient être plus claires dans certains aspects et d'autres plus claires dans d'autres aspects. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je vais transmettre là? À quoi est-ce que ça correspond, n'est-ce pas? C'est pas une vérité, qu'est-ce que c'est? En pensant au Sutta Nipata, ce sutra qui est supposé être peut-être le plus ancien, je me rends compte que le Bouddha, dans le fond, est extrêmement contre les doctrines. Et il parle vraiment des personnes qui opposent une vérité contre une autre vérité, et combien finalement ceci est dérisoire. Donc dans ce sutra-là, ce sont des sutras, c'est une collection de sutras, j'ai l'impression que ce qu'il transmet, c'est plutôt une sorte d'attitude, une sorte de chemin d'exploration et pas du tout une doctrine. Donc il n'y a pas de vérité, même si on structure un petit peu ceci en termes de vérité, il n'y a pas de vérité dans le fond qu'on pourrait transmettre comme ceci. Voilà, et puis on essaierait de comprendre au mieux. Peut-être que c'est même l'inverse. Peut-être que plus on approfondit, plus on se rend compte que c'est à l'heure de vouloir saisir une sorte de doctrine, la doctrine bouddhique. Et qui, dans le fond, en tout cas dans les textes les plus anciens, est clairement écartée par le Bouddha. Et c'est étonnant, je me souviens avoir parler avec un ami qui est un spécialiste du Madhyamika, donc de Nagarjuna, etc. Et puis, je lui demandais s'il avait lu ces sutras les plus anciens, parce qu'on a l'impression que dans le Madhyamika, on parle de l'absence de doctrine, etc. Il me dit, oui, mais c'est juste parce que là, dans ces sutras, le Bouddha, il ne voudrait pas qu'on se dispute. J'ai regardé le texte, et c'était très très clair qu'il ne s'agit pas d'éviter que les gens s'engagent dans des disputes, mais vraiment de dire, ces doctrines qui croient saisir une vérité, opposer une vérité à une autre, c'est pas le chemin, c'est pas ce qu'il explore et ce qu'il transmet. Dans la tradition bouddhique, il y a les sutras, ben comme celui-ci, le Sutta Nipata et d'autres sutras, qui en général sont des occasions où le Bouddha parle d'une chose ou d'une autre. Selon les circonstances, les gens viennent le voir, lui posent des questions. Et puis après, il y a la réflexion que vont faire les communautés monastiques sur ceci, avec toute cette organisation qu'on appelle l'Abhidharma, où tout est bien structuré en différents thèmes, comment les thèmes correspondent à d'autres thèmes, comment on peut les organiser. C'est vraiment un échafaudage assez extraordinaire, cet Abhidharma, de nombreux volumes. Et puis aussi les commentaires, surtout les commentaires indiens, pendant 1500 ans, les grands penseurs de l'Inde bouddhique ont vraiment commenté et analysé, parce qu'évidemment les sutras, quelquefois, ils laissent des choses dans l'ombre, donc ils ont voulu tout préciser, ceci. Ce qui donne évidemment une sorte de source ou de ressource immense, extrêmement vaste. Il y a quelque chose qui est un peu gênant, on a l'impression, parce que ce que nous explorons dans la vie, dans la méditation, pardon, c'est la vie. C'est ça que nous explorons, nous asseyons pour méditer, là, les yeux fermés, ou même dans les transitions, en marchant, c'est la vie qui est en jeu, que nous explorons, pas une doctrine. Et puis tout d'un coup, on a tous ces commentaires et l'Abhidharma qui met tout dans une sorte de boîte cohérente. On dit, mais c'est un peu bizarre que on suppose que la vie peut être mise en boîte comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui étouffe un petit peu la vie quand on veut la mettre simplement dans une sorte de doctrine cohérente? Quelque chose qui, dans la vie, est insaisissable par par l'organisation conceptuelle, qui est justement la richesse de l'immédiat avant qu'on veuille commencer à situer tout ceci. Voilà, maintenant je ne sais plus comment continuer. Bon. Donc il s'agit quand même d'évoquer certains aspects du sens de ce que nous faisons ici. On a besoin d'être motivé, dans le fond, pour venir jusqu'ici, pratiquer avec sincérité. Donc, on a besoin d'être motivé. Donc replacer le sens de ce que nous faisons ici. Toutes ces réflexions, évidemment, celles-ci sont très clairement appartiennent à la tradition, mais c'est ma manière aussi de les comprendre. C'est ma manière d'essayer de donner sens à tout ceci. Donc nous pratiquons pour la liberté, pour être plus libre. C'est toute la structure que nous avons là, la méditation marchant, tout ce que nous faisons, la seule raison d'être, c'est de découvrir un peu plus de liberté. Mais donc, bon, liberté, ça veut dire quoi? Évidemment, c'est un mot assez vaste qu'il s'agit de préciser. Si on le place dans le contexte des quatre nobles vérités, qui semblent quand même être, même si c'est assez structuré, un enseignement de base qu'on retrouve dans toutes les traditions bouddhiques, qui est certainement un petit peu plus tardif. Alors on a ces vérités, vérités de la souffrance, des conditions qui mènent à la souffrance, de la cessation de la souffrance et du chemin qui mène à cette cessation. Alors, si on essaye de placer la liberté dans ce contexte-là, on se rend compte que la liberté, c'est la troisième vérité, c'est la liberté qui implique la cessation de la souffrance et des conditions qui mènent à la souffrance. Être libre de souffrance, être libre des conditions qui mènent à la souffrance. Donc ceci est assez clair, ça peut rester assez proche de la vie. Donc cessation, la vérité de la cessation, cessation du conditionnement et de l'assujettissement. D'être pas conditionné, de n'être pas enfermé, dépendant. Donc liberté, évidemment, veut dire aussi indépendance. Donc non pas dépendre d'une doctrine. Il y a des formulations dans le bouddhisme qui, quelquefois, sont quand même assez trompeuses, me semble-t-il, en ce qui me concerne. Par exemple, l'idée que le chemin bouddhique, ça nous permettrait de sortir du samsara. Formulation qu'on peut trouver des fois, sortir du samsara. Bon, ça paraît assez séduisant, on sort du samsara. Et puis, tout d'un coup, on tombe sur un maître du Chan chinois, Lin Chi, du 8e siècle, un des plus grands, plus brillants maîtres du Chan chinois. Il dit, mais les moines, ils viennent tous me voir de loin, etc. Ils me disent, maître, enseigne-nous comment sortir du samsara. Puis il leur dit, mais idiot, pour aller où? Enfin, franc-parler, Lin Chi, il est assez extraordinaire. Donc, idiot, pour aller où? Ça veut dire que, dans le fond, il ne s'agit pas de chercher une liberté qui serait à l'extérieur de la condition humaine, une liberté qui serait dans une sorte d'isolement intérieur. On trouvera un espace intérieur où on n'est pas conditionné. Et là, on aurait découvert cet espace hors du samsara. Une manière de sortir de la vie commune. Alors que la liberté, c'est justement de le chemin va se passer, se dérouler dans la première et deuxième des nobles vérités, il va se dérouler dans la souffrance, dans le conditionnement. C'est là que le chemin se situe. Parce que c'est là qu'il va s'agir de dissiper la confusion. Dissiper la confusion, le conditionnement, et ainsi les insatisfactions qui en découlent. Donc ce n'est pas ailleurs, au contraire, c'est exactement dans l'expérience quotidienne. dans le conditionnement quotidien. Sinon, on a l'impression qu'il s'agit de séparer. Et quelquefois, on a cette impression-là dans différentes expressions de la tradition. Ce qui était tout à fait typique de la tradition jaïne. Les jaïnes, pour eux, il fallait vraiment se couper de la vie. On a l'impression quelquefois qu'au début du bouddhisme, il y avait un peu cette influence-là, il y avait un petit peu de cet esprit. Un esprit d'ascétisme, de refus, dans le fond, de la condition humaine, où elle était, où la condition humaine était fondamentalement, essentiellement problématique. Et pour le Bouddha, dans ses sutras les plus anciens, je pense que finalement dans tous les développements, pour le Bouddha, ce n'est pas la condition humaine qui est problématique. Il ne s'agit pas d'essayer de disparaître de cette condition humaine. Ce qui est problématique, c'est la confusion qu'on peut avoir. C'est comment, dans ce contexte-là, on se situe mal. Comment est-ce qu'on est confus par rapport à ceci? C'est cette confusion qui fait qu'on est conditionné, cette confusion qui fait qu'il y a de l'insatisfaction, de la douleur, de la souffrance, etc. Non pas la nature humaine même, la nature du monde dans lequel nous vivons, mais la confusion par rapport à ceci, nos préjugés. Et cette confusion par rapport au monde dans lequel nous vivons, par rapport à la nature humaine, elle a des données générales qu'on partage tous. J'ai parlé hier de la temporalité, par exemple, où on pense qu'on existe dans la durée. Alors, quand on explore ceci dans la méditation, on se rend compte que cette notion de durée, c'est quelque chose de construit. Ce que beaucoup de philosophes, d'ailleurs non bouddhistes, ont aussi exprimé clairement, ce que la science aussi exprime clairement. Donc cette notion de temporalité, quand on lui donne une certaine réalité, elle nous enferme. C'est extrêmement pesant. Le passé, ça peut être extrêmement pesant. Le futur aussi, l'avenir aussi. Donc on s'affaisse sous un poids immense de quelque chose qui est purement imaginaire. Parce que Simone Weil expliquerait ça de manière extrêmement claire. Elle disait, nous sommes enchaînés par des chaînes illusoires. Mais réellement enchaînés par des chaînes illusoires. Donc, conditionnement général, confusion générale de la temporalité, des notions de moi et je, c'est la réalité que nous donnons à ceci. Pour communiquer, évidemment, il faut moi, je, tu. Sinon, on ne peut pas communiquer, on n'est pas les uns avec les autres. Mais c'est tout d'un coup la réalité qu'on donne à ceci. Comment ça peut être extrêmement exigeant? Il n'y a pas plus exigeant que le moi. Mais personne ne peut exiger autant que nous exigeons de nous-mêmes. Ce n'est pas possible. Quelquefois, on met cette exigence sur les autres, mais finalement, c'est quand même la nôtre. Donc ça, ce sont aussi des conditionnements généraux. La notion de permanence, on pense que les choses sont stables. Et aussi l'illusion qu'on pourrait trouver des satisfactions stables dans un monde où tout change. Tout change d'instant en instant. Bon, on peut décrire ceci de mille manières. Et puis on voudrait bien trouver dans ce monde où tout change d'instant en instant une satisfaction stable. Trouver un endroit, voilà, là je peux m'installer. Une aire de repos, on est bien, on peut s'installer. On comprend bien, hein, on comprend bien qu'on aura envie de ceci. Mais le problème, c'est que cette satisfaction de quelque chose de stable, dans un monde où tout change, évidemment, on ne va pas la trouver. C'est très bien que même si on espérait quelque chose, en pensant vraiment que ça va être extraordinaire, même quand on l'a, au bout d'un moment, ben oui, c'est extraordinaire, mais il faut passer à autre chose, quoi. si ça dure, espérons que ça peut durer très longtemps, mais quand même, on se rend compte que c'est pas ça, ni la situation, etc. Donc, un conditionnement général, notamment donc de croire à la permanence des choses, du moi, du jeu, etc. Et puis, il y a aussi un conditionnement privé. Et ça, c'est important d'en prendre compte. Et souvent, je crois qu'on n'en parle pas. Si je me rends compte, me rappelle en Birmanie, avec les maîtres, ces conditionnements privés, ça ne les intéressait pas. C'est psychologique. Mais on s'en fout, psychologique ou pas, n'empêche que c'est conditionnant. En plus, ça ne veut rien dire, vu qu'on trouverait dans les sutras tellement d'exemples qui demandent justement à se libérer de ceci. Donc ces conditionnements privés, ben, c'est notre confusion particulière due aux événements de notre vie. Nos préjugés particuliers, notre manière de voir une personne ou les autres, le jeu de nos projections, tout ceci, c'est immense. Si déjà on arrivait à se libérer des projections, on ferait l'expérience d'une liberté immense. On verrait déjà les personnes, soi-même, d'une manière complètement tranquille. Ces préjugés, les angoisses qu'on peut avoir, les colères, les irritations, tout ceci, ben ça fait partie évidemment de notre condition humaine, qui ont toutes leurs colorations particulières selon nos expériences de vie, dans le milieu familial, le milieu social, mille choses. Et d'une certaine manière, évidemment, quelquefois on pourrait s'en plaindre. Quelquefois, on ne s'en prive pas, c'est dégueulasse, etc. Mais, on revient à la tradition bouddhique dans son ensemble, on dit qu'il y a différents domaines d'existence, il y a les devas, eux, c'est vraiment super, c'est des mondes, les devas et les devis, c'est des mondes super. Les personnes naissent avec des parfums naturels extraordinaires, ils sont déjà parés de fleurs, ils sont déjà adultes, etc. Ça a l'air un monde fantastique, on va souscrire. Mais les textes disent, ouais, le problème c'est qu'ils n'ont pas de souffrance, donc ils ne questionnent rien du tout, et ils ne vont pas se libérer. Ils sont attachés à ce monde, dans le fond, de satisfaction, et ils ne vont pas pouvoir se libérer parce qu'ils ne vont pas approfondir les choses. Donc les difficultés qu'on a, en tant qu'être humain ou personnel, ben, c'est aussi ce qui nous pousse à questionner, à approfondir. J'écoutais l'autre jour, hein, une émission sur la dépression, et un homme parlait de ces dépressions qui, ma foi, extrêmement, extrêmement lourdes. Et il disait qu'il avait rencontré dans ces milieux-là des gens réels et authentiques. Dans son milieu professionnel, il n'y avait rien de tout ça. Personne parlait vraiment de la vie, du sens, quoi. Il parlait de performance, etc. Et il disait que là, dans sa dépression, ce que ça l'avait amené à découvrir, vraiment, c'est approfondir, et puis approfondir aussi les contacts humains. Donc, ce qui veut dire que les difficultés qu'on a, c'est aussi ce qui nous pousse à essayer d'approfondir le chemin. Et que si on les rencontre dans la méditation, ce n'est pas des défauts. C'est parce que c'est là qu'on a besoin d'amener de la clarté. Bien sûr, par moments, il y a des expériences de calme, de tranquillité qui sont souhaitables, qui permettent aussi de développer une qualité de l'esprit qui sont très importantes. Mais s'il surgit par moments des difficultés, la lassitude, de l'inquiétude, toute autre expérience, ce n'est pas un défaut. C'est au contraire une opportunité, tout d'un coup, d'essayer d'approfondir, de voir où est notre confusion par rapport à ceci. Dès qu'il y a une émotion en jeu, il y a une confusion. Donc c'est toujours une opportunité. Si on parle d'émotion, dans le sens d'émotion négative, difficile. Donc j'ai parlé un peu de ce qui se passait en Birmanie, où finalement conditionnement privé intéressait assez peu les enseignants. Bon, c'est juste de l'inquiétude ou de la colère ou de l'angoisse. Ok, bon, tu vois, ça passe, etc. Mais oui, on pourrait très bien peut-être se libérer dans l'instant d'une angoisse, d'une inquiétude, d'une colère, parce qu'on vient aux sensations corporelles, parce qu'on peut l'accueillir. Mais si on ne l'a pas approfondi, on ne comprend pas la confusion qui est liée à ceci. Ben, elle est toujours là. Elle nous attend au coin de la rue. On va la retrouver. Donc on ne médite pas juste pour gérer ce qui se passe dans l'instant, pour trouver une manière de pouvoir vivre la situation. C'est quand même là qu'on cherche la liberté. Et la liberté, elle implique de voir clairement ce qui se passe. On verra ceci, c'est le processus d'investigation. Il faut le calme pour avoir cette sensibilité. Autrement, on ne touche même pas ceci. Donc, quand il y a le calme, il peut y avoir tout d'un coup touché ces zones-là. Et puis, l'investigation va nous permettre aussi de comprendre le sens de ceci. Donc, ce chemin qui mène à cette liberté. Je vais revenir un peu sur les choses plus classiques, mais elles ont un sens pour la pratique. Donc cette pratique de la tranquillisation de l'esprit, on tranquillise l'esprit. Ici, on a commencé par l'attention à la respiration, à la présence corporelle, pour que l'esprit ait une certaine disponibilité, aussi une capacité à toucher les expériences en profondeur. Et puis vipassana, qui serait une manière de voir clairement la nature de ces expériences. Donc il va s'agir d'équilibrer ces deux dans notre pratique. Trouver un juste milieu. On commence par la tranquillité, parce que ça semble judicieux. Et puis lentement, eh bien, ça sera la clarté aussi qu'on va s'ouvrir à cette possibilité-là. Dans un texte d'un grand maître bouddhiste du 8e siècle, Shantideva, il a un chapitre, les chapitres sur les différentes perfections, et la cinquième, c'est la perfection de méditation, de concentration, le calme. Je me rappelle avoir étudié ça, on a étudié ce texte pendant une année à Dharamsala tous les jours, on me souvient qu'on l'a vu en détail, vraiment, c'est pas un immense texte. Et puis, quand on est dans un texte, quelquefois on manque de recul, et là, dans ce texte-là, ce chapitre-là, eh bien, il ne parle pas de concentration. Je crois qu'il y a 180 strophes. Il y en a une ou deux où il dit, voilà, il calme l'esprit, assis au pied d'un arbre, il est dans le calme. Mais autrement, il ne parle pas du tout de ça. Il n'y a aucun élément technique. Bon, il parle du renoncement. Il parle du renoncement, des désirs, comment ça trouble l'esprit, etc. On a quand même pas mal de ces description aussi de la beauté d'un corps humain quand on le voit de l'intérieur, qui est plus si beau quand même pour essayer évidemment d'enlever tous ces désirs qui peuvent y avoir liés au corps. C'est une partie, mais aussi l'attachement à son propre corps, donc en réfléchissant sur la mort, c'est toute une partie. Et puis ensuite, la deuxième partie, c'est sur le développement de la bienveillance et de la compassion. C'est une partie extrêmement importante, d'ailleurs extrêmement profonde et précise. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et je me souviens les commentaires, donc là, des maîtres tibétains qui nous enseignaient ceci, des grands commentaires au Tibet, ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'il enseigne ceci, dans le fond, dans ce chapitre-là, qui est le chapitre de la tranquillité de l'esprit? Ils disaient, parce que la base de la tranquillité de l'esprit, c'est la satisfaction. Et que la satisfaction vient notamment de la bienveillance et des attitudes comme ceci. Donc, lorsque l'esprit est disponible, lorsque on comprend bien, lorsqu'on n'est plus trop préoccupé par ces problèmes, on pourrait dire même dans l'assise, problèmes de douleur corporelle et autres qui peuvent être dérangeants. Donc, lorsque tout d'un coup il y a cette satisfaction avec ce qui surgit aussi de la bienveillance, à ce moment-là, il y a une disponibilité par rapport à ce qui se passe dans l'instant beaucoup plus profonde. Donc, cette manière, satisfaction, je ne sais pas si c'est le terme peut-être tout à fait juste, peut-être qu'il faudrait dire être en paix avec ce qui surgit. Satisfaction, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu, il y a un petit peu de, enfin, d'excitation, etc. Mais juste être en paix avec ce qui surgit, quelle que soit l'expérience qui surgit. Donc les supports qu'on peut utiliser pour ceci, ben, c'est quand même des choses qui sont toujours disponibles. Si on prenait comme support le chant des oiseaux, il y a des moments, on serait perdu, on n'aurait plus de support. Donc le fait de prendre la respiration, par exemple, c'est toujours là, c'est toujours disponible. C'est cette réceptivité par rapport à la respiration, c'est pas une manière de forcer, de contrôler. Donc aussi les quatre Brahma-Vihara, donc la bienveillance, la compassion, la joie, et puis sympathique, et puis l'équanimité, qui sont aussi des bons supports. Donc là, ce sont des sentiments, dans le fond, qu'on développe. Pourquoi est-ce qu'ils sont des bons supports? Parce que justement, ils ont cet aspect quand même, surtout pour Metta, la bienveillance, d'amener un état de détente et de satisfaction. Je crois aussi que ces quatre Brahma-Vihara montrent quand même un aspect qui est important, c'est qu'on pourrait très bien être tellement préoccupé par la liberté, sa liberté, que finalement on se couperait du monde social. Je suis tellement concerné par ma libération, ma liberté, etc. Non, non, venez pas me déranger, non, je vais rentrer, ma libération, etc. Même de manière moins caricaturale, dans le fond. Et puis, c'est le fait d'introduire ces sentiments comme bienveillance, compassion, etc., nous montre que cette pratique et même cette liberté doit aussi s'exercer dans le monde, dans la communauté sociale. Ça, le bouddhisme tardif va beaucoup insister là-dessus. Donc la liberté, elle suppose une indépendance. On ne peut pas être libre si on est dépendant. Dépendant d'une doctrine, dépendant de... On pourrait dire même dépendant de la méditation. Ça paraît bizarre de le formuler comme ceci, mais c'est vrai que, on avait enseigné avec Patricia en Israël, il y avait des gens qui pratiquaient tous les jours intensément et que c'était une drogue, ils ne pouvaient pas ne pas la pratiquer. Or, c'est très bien de pratiquer tous les jours, mais quand même ce qui importe, c'est d'y voir clair dans sa confusion, c'est ça. C'est pas d'avoir un espace protégé tous les jours où il y a un peu de bien-être, de calme et peut-être même de clarté, mais c'est que cette clarté, finalement, elle se manifeste dans notre vie quotidienne, dans les échanges quotidiens. Là, évidemment, on se rend compte que c'est un défi clair. Comment est-ce que ça s'exprime dans mon quotidien? Et c'est intéressant parce que souvent ça montre justement ces zones de difficulté. Donc voilà, je voulais parler un peu de la liberté qui présuppose l'indépendance. Et ça me semble important, cette notion d'indépendance, donc de ne de pas dépendre d'une autorité, ne pas dépendre d'une doctrine, de quoi que ce soit. Cette indépendance qui est cette capacité, dans le fond, à être, j'allais dire, soi pour soi-même, mais pas dans le sens d'un ego qu'on saisit. Mais cette indépendance, elle veut dire aussi responsabilité, d'être responsable de ce qui nous arrive. Des fois, c'est moins drôle, mais quand même être responsable de ce qui nous arrive. Pas victime. Et on sait très bien que dans la méditation, quelquefois, on se place un peu en victime, victime du passé, victime de ceci, victime du, voilà, de mes maux de genoux, victime de, je sais pas, ma mauvaise digestion qui fait que je suis fatigué, je somnole un petit peu dans la première assise du matin, de l'après-midi, du soir. Responsable ici, ça ne veut pas dire coupable, mais ça veut dire ne pas se placer en victime. Ça veut dire qu'est-ce que... Bien sûr, on ne peut pas contrôler ce qui surgit. Dans nos méditations, il peut y avoir des émotions qui surgissent, de la somnolence, certaines douleurs à certains endroits du corps, des pensées. On ne peut pas contrôler. Les textes sont très clairs. On ne peut pas dire, ben voilà, je vais penser pendant 2 minutes, parce qu'il faut bien donner un petit espace, après je ne pense plus, pendant 22 minutes, puis après, non, ce n'est pas comme ça. Les pensées, elles surgissent comme ça, sans crier gare, ou alors les états d'un peu de lassitude ou de somnolence. Donc, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Je peux me placer victime de ce qui se passe. Mais je n'ai pas de contrôle. Donc, voilà, je me place en victime, ça ne me mène nulle part. La responsabilité, c'est qu'est-ce que je fais maintenant avec ce qui surgit? Est-ce que je prends ce défi? Je suis à la hauteur de la situation pour l'explorer? Ou je me plains? C'est des fois sympa de se plaindre, mais ça ne mène pas loin. On sait bien, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai assez essayé, mais ça ne m'a pas amené très loin. Je voulais paraphraser ici Vimalakirti, qui me donne une citation, mais qu'on trouverait dans beaucoup d'autres textes, où il dit « La sagesse sans compassion est assujettissement, et la compassion sans sagesse est l'assujettissement. » On pourrait dire que la liberté sans responsabilité est une impasse. La responsabilité sans liberté est aussi une impasse. Que cette liberté qu'on explore, elle implique aussi une responsabilité. Parce qu'on est responsable de ce qu'on fait de la situation, pas de la situation elle-même, les choses surgissent sans qu'on les crée, mais après qu'est-ce qu'on en fait? Donc responsable dans sa pratique, c'est pas coupable, hein, responsable. Simplement à assumer ce qui se passe. Il y a une histoire que raconte Martin Buber que j'aime bien. Bon, je ne sais pas si elle s'applique exactement à ce dont on parle ici, mais c'est l'histoire d'un jeune disciple, d'un rabbin, plus où c'est, dans l'Europe de l'Est, puisque c'est ces régions-là où vient toute cette mystique juive. Donc, et il avait décidé de jeûner pendant une semaine, donc sans boire de l'eau, donc sans manger, sans rien boire, sans boire de l'eau. Et puis arrive le samedi, en fin de journée, donc c'est bientôt fini, ben il a vraiment une grande soif. Voilà. Il dit, oh non, faut que j'aille boire, c'est pas possible. Alors il prend une écouelle, il s'approche près de la source ou de la fontaine. Il dit, oh non, c'est quand même trop bête, quoi. J'ai résisté pendant une semaine et là, tout d'un coup, je vais gâcher ce jeûne au dernier moment. Donc il dit, non, je vais pas boire. Puis après, il dit, mais quel orgueil, maintenant, wow, j'ai réussi ma je veux m'attacher à la réussite de ce jeûne, etc. Mais quel orgueil, non, c'est beaucoup mieux d'aller boire plutôt que de rester dans l'orgueil. Donc il s'approche de la fontaine pour aller boire, puis là il n'a plus soif. Donc il ne boit pas. Mais le soir, quand il va chez son maître, le maître le reçoit, puis il lui dit, mais bricolage, j'ai l'air de dire, mais qu'est-ce que tu t'embêtes, t'as perdu ton temps, quoi. Alors Martin Buber a dit, oui, il est quand même un peu dur, hein, parce que, le pauvre gars, il avait essayé, il était bien brave, il a même essayé de ne pas tomber dans l'orgueil, etc. Bon, c'est quand même un petit peu dur. Alors il a réfléchi pour essayer de... Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que ce maître essaie de montrer à son disciple? Il essaie justement de lui montrer la responsabilité. Là, il n'a pas vraiment choisi, il a tergiversé ceci, cela. Alors que Martin Buber emploie un terme qui veut dire... Ou pour le maître, il s'agit d'agir avec la totalité de soi-même, d'agir totalement. Alors qu'il ait bu ou pas, peu importe, ce n'était pas ça l'enjeu. C'était d'être totalement dans ce qu'il faisait, plutôt que d'être à moitié ici ou moitié là. Donc totalement dans ce qu'il faisait. Et c'est intéressant parce que Grotowski, le grand maître en scène polonais, donc, qui connaissait bien cette tradition mystique juive, parce qu'il était en Pologne, il vivait dans une ferme, et sa mère qui était... très curieuse, elle lui amenait toujours des bouquins sur, sur l'hindouisme, le bouddhisme, la tradition mystique juive, etc. Donc il avait beaucoup aimé ces récits. Et lorsqu'il parle à ses acteurs, il dit dans le fond, une chose, on a bien l'impression qu'elle surgit de ceci. Il dit la question pour nous, et que veux-tu faire de ta vie? Que veux-tu faire de ta vie? Te cacher ou te révéler? Est-ce que tu veux te cacher tout au long de ta vie, dans le fond vivoter, vivre à côté de ta vie, ou est-ce que tu veux te révéler? Il dit, mais ne pas se cacher, c'est agir depuis sa totalité. C'est agir en totalité, dans sa présence vivante. Donc il reprend là-dessus, donc même pour les acteurs, il dit, mais ou bien on agit à moitié, donc en se cachant à moitié, ou bien on agit totalement. Ça, évidemment, pour nous, c'est très parlant, parce que dans les déplacements, etc., est-ce qu'on fait les choses à moitié ou est-ce qu'on peut être totalement là? On explore cette possibilité d'être totalement là. Et vous voyez, bon, si cette totalité, c'était important pour les acteurs, bon, on n'est pas nécessairement concerné par ça, mais c'est autre chose, c'est que dans cette totalité-là, il y a déjà cette qualité de vie qui est déjà une ouverture vers la liberté. C'est déjà un aspect de la liberté. Non pas parce que ça nous mènerait à quelque chose, mais parce que c'est déjà une dimension de liberté. Donc on peut explorer ceci. Si évidemment je sors de la salle et que je suis déjà en train d'aller au réfectoire, donc je suis en train de marcher, mais à moitié au réfectoire et autre, je ne suis pas dans la totalité. Mais est-ce que je peux être là et marcher complètement? Découvrir la richesse de marcher complètement en étant là à chaque instant. Grotowski parle aussi à un moment donné, il dit dans le fond, quand on marche, on est toujours là où on va. On n'est jamais là, on est toujours là où on va. Évidemment, ce qu'on connaît bien. Donc, explorer comment on assume les expériences qui surgissent. Qu'on les voit comme des malédictions quand elles sont désagréables ou simplement quelque chose qui surgit, où on trouve le moyen d'être en paix avec ce qui surgit. Non pas parce qu'on serait insensible, ni pas parce qu'on le nierait, mais parce qu'il y a une sorte d'intérêt, parce que c'est quand même la vie qui se manifeste à cet instant. C'est pas autre chose, ça vient pas de l'extérieur. Les expériences qu'on a, ça vient pas de l'extérieur, à moins qu'il y ait un bruit extrêmement fort, mais l'audition sera quand même quelque chose d'intérieur. Donc, de cette manière-là, nous explorons la possibilité d'une plus grande liberté. Mais cette plus grande liberté se joue à chaque instant. Ce n'est pas pour à la fin de la retraite, à la fin de la pratique, à la fin du chemin. Non, c'est à chaque instant qu'on peut découvrir. Et je crois que notre pratique se nourrit quand justement, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, puis on découvre, tiens, là, j'ai l'attitude judicieuse qui me semble que j'en fais l'expérience en toute liberté. Et là, ça donne confiance dans le processus. Même si après, on peut se rebloquer sur quelque chose, c'est normal, on est là pour explorer le chemin, on n'est pas là pour avoir un idéal de réussite, mais d'avoir cette curiosité pour, dans chaque expérience, découvrir l'attitude qui est une attitude de liberté. Elle est toujours possible. Même si des fois elle est difficile, pas dire yaka, etc., parce que quelquefois surgissent des angoisses profondes et autres, et à ce moment-là, il faut gérer, revenir à la respiration, revenir aux sensations des mains sur les genoux. Il y a des moments où il faut gérer. Il y a des moments, on pourrait dire, où il faut s'absenter, ou bien se limiter dans l'expérience. Et c'est normal, et on ne peut pas juste être militant ou militante, puis se dire non, je vais y aller à travers ça. Il s'agit quand même d'avoir du bon sens. Mais à part ça, à part ces expériences quand même extrêmes, à la plupart du temps, on peut découvrir comment est ma disposition dans ce qui surgit, qui est une disposition de liberté, qui n'est pas un rejet ni une mise à distance. Parce que c'est toujours la vie qui se manifeste en vrai. Donc toujours à explorer, toujours à vivre. Si on refuse la vie qui se présente à soi, ben on ne sait pas laquelle on va vivre. On n'a que celle-ci. On n'a que la vie qui surgit à chaque instant. On n'a pas d'autre. Et là, on n'a pas le choix. Et la liberté, c'est de l'assumer et non pas d'en vouloir une autre. Si on en veut une autre, ben on sait très bien que ça peut durer longtemps. Voilà, donc quelques remarques pour essayer de prendre conscience du sens qu'on donne à la pratique, qui est un sens essentiel et puis qui est là, qui se joue à chaque instant, qui ne demande pas des compétences particulières, mais je crois une sorte de disponibilité, disposition, qui est là parfois, qui est parfois n'est pas là. Ça arrive. On arrive dans la salle de méditation, oh non, encore, je n'ai pas envie. Ok, on a le droit de ne pas avoir envie. Personne ne dit, oh, c'est chouette, non, j'en ai pas, j'ai pas envie aujourd'hui. C'est comme, ok, ben voilà, est-ce que je peux être à la hauteur de j'ai pas envie? J'ai pas envie, c'est une expérience comme une autre. J'ai pas envie, voilà, de manière qu'a la vie de se manifester. J'ai pas envie, ah tiens, c'est intéressant. Finalement, c'est, voilà, c'est complètement vivant, j'ai pas envie. Donc ne pas faire une hiérarchie.